Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business, Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, bienvenue dans 60 minutes business, votre émission économique d'actualité économique de la mi-journée. On va décrypter les dernières informations avec nos reporters, nos invités. Au sommaire de ce mardi 15 novembre, Orpea a exposé un risque de manque de liquidité au cours du premier trimestre 2023. C'est ce qu'a prévenu ce matin le groupe d'EHPAD privé lors de la présentation d'un plan visant à le remettre sur les rails. Le groupe dans la tourmente depuis plus d'un an. On va voir ça avec Hélène Cornet sur ce plateau dans un instant. En l'espace de 3 ans seulement, les prix du neuf ont grimpé de 18%. C'est ce que nous dit le laboratoire de l'immobilier. On est près de 5500 euros du mètre carré en moyenne. Cela ne semble pas du tout se calmer. Les raisons de tout cela, on va en parler dans notre focus avec Marie Cœur de Roi. Et les premiers frimas de l'hiver sont là. La facture de chauffage de votre copropriété va s'en ressentir. Mais depuis quelques années apparaissent des entreprises qui surveillent et pilotent la consommation d'énergie des immeubles. C'est le cas d'Idéalis. Son cofondateur, Michael Lalande, sera avec nous dans 10 minutes. Et puis, à 12h30, comme tous les jours, Lorraine Goumeau nous rejoindra pour la deuxième partie de l'émission BFM avec vous. On répondra à toutes les questions que vous nous avez posées. On recrutera également aujourd'hui, évidemment. Allez, tout de suite, c'est l'heure du journal. De transformation d'Orpea dévoilé ce matin. Le groupe de maisons de retraite lesté d'une dette de plus de 9 milliards d'euros doit convaincre ses investisseurs qu'il peut redresser la barre. Hélène Cornet, ça passe par des cessions d'actifs et une réduction de ses activités à l'international. Hélène.
Voilà, exactement. Et Orpea a déjà identifié un portefeuille d'actifs immobiliers qui pourrait être cédé rapidement. Il y en a pour un peu plus d'un milliard d'euros. Le groupe devrait également se désengager de marchés qui ne sont pas jugés stratégiques, comme la Chine et des pays d'Amérique latine. Et puis Orpea souhaite également insister sur la formation continue de ses salariés pour les fidéliser et promet une meilleure qualité des soins après le scandale, vous savez, suscité par l'apparition du livre Les Fossoyeurs en début d'année.
Oui, c'était il y a presque un an, effectivement. Est-ce que ce sera suffisant, Hélène, pour convaincre les investisseurs?
Alors, rien n'est moins sûr, puisque le défi est de taille. Le groupe est très fragilisé financièrement, avec une dette massive de plus de 9,5 milliards d'euros. Orpea risque même de manquer de liquidité dès le début de l'année prochaine. Sauf que les créanciers sont passablement échaudés. Ils ont déjà remis au pot, vous savez, en juin dernier, mais sur la base de chiffres qui n'étaient pas totalement exacts. Et on leur demande de faire un nouvel effort. C'est non, cette fois. En tout cas, pas sans la garantie de l'État. La Caisse des dépôts pourrait éventuellement entrer au capital pour lui garantir, du coup, une certaine crédibilité. Les négociations s'annoncent assez tendues, surtout que c'est la double peine. La direction souhaite en effet convertir une partie de la dette en capital et ce serait alors, du coup, une dilution massive pour tous ceux qui ne voudraient pas participer à l'opération. L'autre idée évoquée cette fois par les petits actionnaires, et c'était l'information de BFM Business ce matin, c'est de vendre une des filiales du groupe, Clinéa, qui est spécialisée dans la rééducation. Elle fait 25% du chiffre d'affaires du groupe Orpea. C'est une pépite convoitée par certains concurrents, mais là aussi, l'idée de la vente ne fait pas vraiment l'unanimité.
Très bien, on posera la question, toutes ces questions à Laurent Guillot demain matin, le directeur général d'Orpea, qui sera l'invité de Good Morning Business. Ce sera à 7h45. Merci beaucoup, Hélène Cornet. Dans l'actualité, le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail qui est resté quasi stable au troisième trimestre en France pour s'établir à 7,3%. C'était 7,4% au deuxième trimestre. Et justement, c'est la dernière ligne droite pour la réforme de l'assurance chômage qui doit être votée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. De quoi ouvrir la voie, la prochaine étape, moduler les règles en fonction de la conjoncture. Sur ce point, les discussions avec les partenaires sociaux sont déjà entrées dans le dur puisque depuis plusieurs semaines, les mesures se précisent. Caroline Morisseau. Les nouvelles règles commencent à se dessiner. D'abord, deux critères pourraient être pris en compte pour déterminer la météo sur le marché de l'emploi, le nombre de postes à pourvoir et le taux de chômage. Derrière, selon que la situation est au vert, au orange ou au rouge, la durée d'indemnisation des chômeurs serait plus ou moins réduite. Un responsable syndical au cœur des discussions explique. Aujourd'hui, un jour travaillé donne droit à un jour indemnisé. L'exécutif veut mettre en place un coefficient réducteur afin qu'un jour travaillé donne droit non plus à un jour, mais à 0,80 voire 0,75 jours indemnisés lorsque tout va bien. Concrètement, un chômeur qui, selon les règles actuelles, avait par exemple droit à 24 mois d'allocation n'aurait plus droit qu'à 18 mois en période verte. Rien n'est définitivement arbitré, mais le gouvernement veut aller vite. Hier, les partenaires sociaux ont été convoqués pour une ultime réunion en multilatéral le 21 novembre prochain. Les nouvelles règles seront ensuite fixées par décret et devraient entrer en vigueur au plus tard en février prochain.
Et puis de nouvelles implantations en France d'ArcelorMittal remises en question, celle de Fos-sur-Mer et Dunkerque en raison d'une perte de compétitivité pour le numéro 2 mondial de l'acier. Le contexte international s'est durci et cela doit amener les autorités européennes à bouger, selon le directeur général France d'ArcelorMittal, Eric Nizziella, qui était l'invité de Good Morning Business. Écoutez.
Le projet de Dunkerque et de Fos, il avait un avantage concurrentiel avant la mise en œuvre de l'Inflation Reduction Act de Biden.
Il s'est remis en cause, là.
La compétitivité s'inverse, d'où la discussion à l'Élysée avec le président
la semaine dernière
de dire il faut agir rapidement.
Il a doublé le chèque, hein. Il a dit, pas que pour vous, mais il a dit, moi je suis prêt à mettre 10 milliards au lieu de 5. Hein.
C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais ce qui est important, c'est de réussir la première phase. Et la première phase, il faut déjà la mettre en œuvre avec la green light, enfin le feu vert de la Commission européenne à mettre en œuvre les projets à Dunkerque et à Fos-sur-Mer.
Vous vous inquiétez ?
Voilà Eric Nézila qui était l'invité de Good Morning Business, le directeur général France d'ArcelorMittal. C'est la fête ce soir, la fête des entrepreneurs. Un BFM Business célèbre les patrons au Louvre, soirée des BFM Awards à suivre sur notre antenne. Raphaël Couder, vous êtes déjà sur place sous la pyramide, ça se prépare.
Oui, cérémonie exceptionnelle à venir ce soir dans un lieu tout aussi exceptionnel, hein, puisqu'on est juste sous la pyramide du Louvre, un cadre assez extraordinaire, hein, en plein cœur de la cour carrée du Louvre. Et donc, vous le voyez derrière moi, cette scène des BFM Awards qui est actuellement en train d'être installée. Les tables sont en train d'être préparées, elles commencent même à être dressées. Il manque plus que le public, il sera là ce soir. 500 personnes sont attendues, des dirigeants, des chefs d'entreprise, les fondateurs des plus grandes start-up de la French Tech seront là. 6 récompenses vont être remise ce soir, l'entrepreneur de l'année, la meilleure transmission familiale, la meilleure conquête à l'international également, et puis bien sûr le trophée ultime, le plus prestigieux, celui du manager de l'année. L'année dernière, c'est Bernard Charles, le patron de Dassault Systèmes, qui avait remporté cette récompense. Alors qui pour lui succéder cette année? Eh bien, pour le savoir, il faudra regarder BFM Business à partir de 19h, l'avant-soirée présentée par Guillaume Paul, et puis bien évidemment à partir de 20h, la grande cérémonie des BFM Awards 2022 avec Christophe Jacubizine, Laure Clausier, Audrey Tcherkov, et bien sûr plein de surprises et plein d'invités.
On y sera très nombreux. Merci Raphaël Couder avec Olivier Mélan au Louvre. Et moi, je vous retrouverai pour l'after à 21h15 aussi en direct du Louvre. Et puis, après un trou d'air cet été, les investisseurs publicitaires devraient retrouver de bons niveaux jusqu'à la fin de l'année. C'est la prévision plutôt optimiste de la filière de la communication qui vient de publier son baromètre trimestriel. Une croissance portée par une consommation des ménages qui résiste. Simon Tenenbaum.
Le secteur de la pub respire à nouveau. La montée des tensions avait poussé beaucoup d'annonceurs à l'attentisme dès la fin du printemps. Les recettes publicitaires ont reculé d'environ 2% au troisième trimestre. Personne n'a été épargné par ce coup de frein. Meta, par exemple, affichait une baisse de 6% de son volume publicitaire. Mais depuis la rentrée, les investissements repartent et retrouvent leur niveau habituel d'avant-crise. Au final, avec l'effet Coupe du Monde, les dépenses de communication devraient croître d'environ 6%. Cette année, pas si mal vu le contexte, même si ce chiffre cache d'importantes disparités. L'automobile frappé par les pénuries et l'alimentaire touché en premier lieu par l'inflation ne cesse de réduire la voilure. À l'inverse, le tourisme, les loisirs, l'informatique, l'ameublement, l'habillement, le luxe sont bien décidés à communiquer davantage pour aller chercher cette épargne que les ménages aisés n'ont pas encore dépensée. Un marché bipolaire, note France Pub, qui n'a jamais constaté de tels écarts de tendance selon les secteurs.
Allez, c'est l'heure de notre focus. Focus immobilier aujourd'hui avec vous, Marie Cœur de Roy. Bonjour.
Bonjour Sandra.
On attend désormais un reflux sur les prix de l'immobilier ancien, ça on le sait, mais ceux du neuf ne semblent toujours pas prêts de ralentir. En témoignent les derniers chiffres du laboratoire de l'immobilier, spécialiste de ce marché du neuf, que vous nous révélez aujourd'hui en exclusivité pour BFM Business, Marie.
Oui, et ce sont des chiffres assez impressionnants, effectivement, Sandra. On regarde sur un an, on a une hausse des prix du neuf de 5,7%. C'est pas mal. Mais quand je regarde même sur 3 ans, la hausse des prix des logements neufs, elle est de 18%. 18% sur 3 ans, sachant que vous le savez très bien, hein, les prix du neuf, ils sont globalement plus élevés que ceux de l'ancien. Et là, en gros, on est en ce mois de novembre, en moyenne, à environ 5 500 € du mètre carré pour l'achat d'un logement neuf en France. Alors évidemment, vous connaissez les raisons. On a de moins en moins de terrain pour construire. C'est la rareté du foncier. Oui. On a de moins en moins de permis de construire qui sont délivrés par les municipalités. On a des hausses des coûts des matériaux, hausses des coûts de financement. Bref, c'est difficile et donc forcément, les promoteurs ont tendance à impacter les coûts de sortie, leurs surcoûts à eux. Et donc du coup, on a des villes où les prix explosent. Alors le podium, il n'a pas vraiment changé. Hein, le podium des villes les plus chères, mais effectivement, là, ça augmente de manière vertigineuse. Donc, vous avez évidemment Paris en tête. Là, on est à près de 13 500 € du mètre carré pour l'achat d'un logement neuf à Paris. Bon, faut voir qu'on construit très, très peu à Paris, hein, quand même. Hein. Donc, ça explique aussi. Derrière, on a Lyon et Nice. On est autour des 6 500 €. Faut bien voir qu'en 2019, dans ces villes les plus grandes et les plus chères, vous en aviez que 3 qui étaient au-delà des 5 000 €, celles dont je viens de parler, c'est-à-dire Lyon, Nice, Paris. Aujourd'hui, vous en avez 4 fois plus des villes au-delà des 5 000 €. Les hausses les plus fortes, en revanche, parce que là, c'est en valeur absolue, c'est les plus chères, mais les hausses les plus fortes, on les trouve ailleurs, dans des villes un peu plus petites. Vous savez, ces fameuses villes d'après-Covid dont je vous ai beaucoup parlé. Et là, en l'occurrence, vous avez La Rochelle, Saint-Malo, Caen, Angers, à l'ouest de la France, Antibes, Aix-en-Provence, Nîmes, du côté du sud de la France. Dans toutes ces villes, on a des prix qui grimpent de 7% et plus sur un an.
Mais Marie, on a ces difficultés d'accès au crédit qui se font sentir de plus en plus. On imagine que ça va faire baisser la demande, les prix aussi peut-être.
Alors la demande elle a baissé, c'est vrai Sandra, hein. Et d'ailleurs le laboratoire de l'immobilier me racontait qu'il y a certains promoteurs qui affichent 40 à 50% d'annulation de réservation par des acheteurs qui n'arrivent pas à décrocher leur crédit immobilier. Donc c'est une réalité. Le problème c'est qu'on n'est pas dans l'ancien, on est dans le neuf. Qu'encore une fois les promoteurs, s'ils veulent conserver leur équilibre financier, ils doivent impacter sur leur coût de sortie, leur propre surcoût à eux dont je vous ai déjà parlé. Et à cela s'ajoute en plus la nouvelle réglementation énergétique, la RE 2020 qui vient d'entrer en vigueur. Et donc tout le monde ne table pas sur une baisse ou un assagissement des prix dans le neuf, bien au contraire, sur une plus grosse flambée encore dans les mois qui viennent, une demande qui ne va pas pouvoir suivre et donc un marché qui va clairement caler dans les prochains mois.
Merci beaucoup Marie Cœur de Roy pour ce focus. Allez tout de suite, on fait un point à Euronext. Avec vous Antoine Larigauderie, le CAC 40 qui ne bouge quasiment plus à la mi-journée. Antoine.
Oui, aussi bien du point de vue de la tendance, parce qu'on s'est vraiment calé sur très très peu d'écart de points. On est en hausse de 0,29%, c'était quasiment le score à l'ouverture. On était à 6 627 points. Les volumes d'échanges aussi sont particulièrement réduits. On n'a pas encore franchi le milliard d'euros d'actions négociées sur le CAC 40. Donc on sent vraiment que les investisseurs ils ont fait leur marché depuis une dizaine de jours et que là, on attend de voir. Alors qu'est-ce qu'on attend de voir? Notamment énormément de statistiques économiques. Il y en a eu déjà pas mal en zone euro ce matin. Il en reste à venir du côté des États-Unis et notamment les prix à la production, l'inflation sortie d'usine pour le mois d'octobre. Et ça va être l'indicateur vraiment le plus regardé de la journée. Il sera publié à 14h30. On aura aussi l'indice d'activité de la Fed de New York qui sera regardé. Du côté des autres places européennes, on a un Eurostock 50 qui est en légère hausse, plus 0,15%. On est même en baisse à Francfort, moins 0,19% pour l'indice DAX. À signaler que Téléperformance signe toujours la meilleure performance du CAC 40 avec une progression de 9,4% à 221,70 €, soutenue par une recommandation positive de JP Morgan. On a Thales qui avance de 3,3%, 116,45 €. Veolia, plus 3,13 € à 24,68 €. Puis ensuite, on a des titres industriels qui se comportent pas mal, notamment Renault qui gagne 1,2% à 33,17 € et Safran, plus 1,26 € à 110,72 €. À la baisse, Alstom perd 2,7% à 23,77 €. Worldline, moins 2,11 € à 44,90 €. Et ArcelorMittal, moins 1,8% à 25,70 €. Le CAC 40, donc plus 0,25%, 6 626 points. Puis c'est un des chiffres importants du jour aussi, l'euro qui passe le cap d'1,04 maintenant face au dollar qui se redresse bien. 1,0426 face à un dollar qui faiblit.
Est-ce que ça va un peu mieux sur les cryptos, Antoine ?
Alors un tout petit peu mieux, mais on a vraiment du mal à redécoller. La tendance est haussière, mais vraiment c'est très très laborieux. 16 840 $ pour le Bitcoin, 1260 pour l'Ether, 38 cents maintenant pour l'XRP, mais on sent que le marché est particulièrement refroidi par les développements de l'affaire FTX et des risques de contagion à l'ensemble du secteur des plateformes d'échange crypto.
Merci beaucoup Antoine Larigauderi. Allez, dans un instant, on va faire un petit bilan de votre copropriété, sa consommation d'énergie par exemple, juste avant l'hiver. Michael Lalande, le cofondateur et directeur général d'Idéalis, c'est notre invité dans deux minutes. Restez avec nous.
BFM Business, 60 minutes business, l'invité.
Et avec nous ce midi, Michael Lalande, cofondateur et directeur général d'Idéalis. Le froid arrive, on s'inquiète tous évidemment de la facture d'énergie de notre logement, surtout s'il est chauffé au chauffage collectif. Michael Lalande, Idéalis, c'est une super app que vous avez créée pour les copropriétés. Justement, qu'est-ce qu'on y trouve ?
Eh bien, écoutez, bonjour, merci. Alors Idéalis, effectivement, c'est une super app. Donc ça veut dire que c'est une appli qui intègre plusieurs services au sein du même environnement. Et aujourd'hui, dans la plupart des services que nous proposons, il y a des fonctionnalités pratiques. Donc ça veut dire on est premier à avoir digitalisé du contrôle d'accès, on fait de la domotique, on gère des dysfonctionnements au sein de l'immeuble. Et bien évidemment, on fait le suivi énergétique, donc avec une fonction d'éco-responsabilité également. Donc ça veut dire que c'est autant une solution technologique que humaine, puisqu'elle est assujettie à des conseils, à de l'acculturation, comme on dit, voire des évolutions comportementales.
Alors concrètement, les habitants de ces copropriétés sur lesquelles vous travaillez peuvent vous signaler sur cette plateforme les dysfonctionnements, une fenêtre cassée, ce genre de choses qui pourraient entrer en contradiction avec une bonne consommation d'énergie. Est-ce qu'il y a aussi des capteurs qui permettent de savoir un peu comment se situe l'immeuble ?
Exactement. Donc, on a des niveaux, on va dire, de base, on va dire, qui n'intègrent pas d'équipement, puisque qui dit capteur, qui dit équipement, dit budget, hein, oui. Budget travaux et ainsi de suite. Et aujourd'hui, la plus grosse problématique des copropriétés, ça reste quand même la relation budgétaire et les investissements. Donc on a un premier niveau qui s'appuie sur des infrastructures existantes de l'immeuble, donc sans surcoût d'équipement, jusqu'à des solutions beaucoup plus équipées avec des capteurs dans les parties communes, des capteurs dans les logements et ainsi de suite, qui permettent d'automatiser des fonctionnements, puisque plus on équipe, plus on est capable d'automatiser. Mais pour le moment, c'est plutôt le pendant des immeubles tertiaires, bureaux, que ceux du résidentiel. Puisque dans le résidentiel, vous devez jouer donc avec les investissements, mais également avec les charges de copropriété, donc oui. le récurrent. Et donc on essaye de privilégier au maximum les installations sans équipement, même si à des moments vous êtes obligé, parce que quand vous avez un centimètre d'air qui passe au-dessus d'une fenêtre, au bout d'un moment vous n'avez pas trop le choix, vous êtes obligé de changer la fenêtre.
Justement, vous lancez une offre destinée à réduire la consommation des immeubles résidentiels. Comment ça fonctionne pour... Il faut déjà un très bon calcul, un bon diagnostic de la consommation pour ensuite pouvoir demander aux résidents une réduction.
Alors, vous avez totalement raison. C'est-à-dire que déjà, le premier élément, c'est de connaître cette consommation. Parce que quand on fait des sondages ou quand on interroge les gens, ils connaissent leurs factures. Ils savent ce qu'ils payent tous les mois. Par contre, la manière dont ils consomment et qu'est-ce qui compose cette facture, ça, malheureusement, il y en a beaucoup moins qui sont au fait. Donc, que ce soit parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'énergie, les gens vont se focaliser énormément sur l'électricité parce que c'est le sujet, on va dire, primordial aujourd'hui, ouais. Ou le gaz. Mais l'énergie, c'est effectivement, c'est le gaz, c'est l'eau, c'est l'eau chaude que collective ou individuelle, c'est tout ce que vous consommez, entre guillemets, pour vous laver, pour vous chauffer, pour... Et cette vision, malheureusement, est souvent parcellaire. Donc, on prend les sujets individuellement. Nous, le choix qu'on a fait chez Idéalis, c'est d'apporter une vision globale. Donc, ça veut dire que quand les gens savent ce qu'ils consomment sur l'eau, ce qu'ils consomment sur leur cumulus, ce qu'ils consomment sur leur radiateur, et ainsi de suite, c'est là où vous commencez à avoir une vision un peu globale, oui. Et d'appuyer là où, entre guillemets, ça fait mal. Parce que, comme vous le dites, il y a des immeubles où vous êtes en collectif, donc ça veut dire vous partagez avec tout le monde, et des immeubles où vous êtes en individuel. Oui. Donc, et aujourd'hui, Une notion qui est importante, c'est celle de répartition de frais de chauffage. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc ça correspond également à l'offre qu'on a montée avec OCA, qui va permettre d'individualiser les charges de fonctionnement sur des immeubles avec des chaufferies collectives. Oui. Et ça, c'est un gros gain d'énergie parce qu'effectivement, quand vous n'avez pas la maîtrise personnelle et individuelle de vos consommations, eh ben il y a des mauvais comportements qui s'installent parce que les gens se disent et c'est humain. Hein, donc là, je suis pas en train de pointer du doigt des mauvais comportements. C'est très social. C'est de se dire, moi, même si je fais un effort, malheureusement, il sera pas répercuté sur ma facture parce que mon voisin du 4e ou du 5e, lui, il s'en fiche, donc il fait pas cet effort. Donc au final, moi, je fais un effort qui récompensera la personne qui le fait pas. Donc c'est aussi ça, gérer l'énergie, c'est gérer les gens, c'est gérer des conforts, parce que quand vous êtes au bureau, bah là vous avez pas de choix, vous avez un règlement intérieur, on vous explique que le thermostat il est à 19, que c'est, mais quand vous êtes chez vous, vous êtes le roi dans votre royaume entre guillemets comme on dit. Donc là, c'est plus votre état d'esprit et ce que vous voulez faire qui va faire la différence plutôt que des choses qu'on va vous imposer.
Mais alors justement, c'est intéressant ce que vous dites, c'est effectivement une part d'humain. Vous avez commencé à travailler au départ à Montpellier avec les promoteurs immobiliers sur les programmes de logements neufs en construction. Vous en avez beaucoup dans votre portefeuille. Maintenant, il faut convaincre les immeubles qui existent. Déjà, comment vous faites pour convaincre les syndics justement de faire appel à une app comme la vôtre ?
Bah, déjà, vous avez tout dit, c'est déjà convaincre le syndic, oui. puisque nous, on fonctionne donc au niveau de l'immeuble, donc au sein de la copropriété, et ça, il faut bien le comprendre, la copropriété est régie par un gestionnaire, donc ce syndic, qui soumet à l'ensemble des occupants les propositions d'évolution sur le collectif, mais aujourd'hui, on est capable de toucher des sujets individuels d'une manière collective, donc ça change un petit peu aussi la manière de faire les choses. Donc aujourd'hui, on a de nombreux partenariats avec des syndics et avec des bailleurs sociaux qui aujourd'hui préconisent en fait nos solutions directement auprès des assemblées générales et des copropriétaires pour les informer que ce type de solution existe. Et du moment où on a déjà franchi cette étape, là, on est capable de rencontrer les occupants et d'avoir une discussion sur l'intérêt ou pas en fonction de leur immeuble, parce que malheureusement, on n'a pas une solution qui est universelle. Chaque immeuble est un peu différent en fonction du système de chauffe, en fonction de l'isolation, en fonction de l'année de création même du bâtiment, parce que les immeubles années 70 n'ont pas la même isolation que les immeubles années 90, voire les immeubles d'avant, l'année 50. Donc c'est tout ça en fait qu'il faut prendre en considération.
Bien sûr, et de cela dépend d'ailleurs le montant de l'abonnement hein, à votre super app, mais c'est vrai que c'est toujours forcément plus intéressant que la facture d'énergie qui explose en ces temps d'incertitude.
Ah bah, aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Oui. Aujourd'hui, sur l'électricité, et là, enfin, j'ai les derniers chiffres. Je remercie Sandrine, ma collaboratrice, qui me les a sortis justement juste avant notre interview pour être bien à jour. Aujourd'hui, on est en moyenne à 25 euros d'augmentation sur les factures de gaz et à 20 euros sur les augmentations d'électricité par mois. Donc, ça veut dire qu'à l'année, on est sur une hausse de entre 200 et 300 euros en fonction de la source, avec le bouclier tarifaire. Donc j'insiste bien, s'il n'y avait pas le bouclier tarifaire, aujourd'hui on serait sur des montants qui sont 10 fois supérieurs quasiment. Oui. Donc ça veut dire que et ça c'est ce que je disais la dernière fois, nous ça fait maintenant presque 5 ans qu'on développe des solutions de suivi d'énergie. Il y a 5 ans, tout le monde s'en fichait. On nous disait oui, l'énergie, on est un pays producteur, on est royal, on fait ce qu'on veut, enfin et ainsi de suite. Sauf que maintenant qu'il y a un impact significatif sur le pouvoir d'achat des ménages, parce qu'aujourd'hui, quand on va faire économiser 40, 50, 60 euros par mois à des copropriétaires, là, ça impacte leur vie au quotidien.
Et oui.
Donc, malheureusement, on a le double discours. On a le discours pour la planète, parce que historiquement, les solutions qu'on développait, c'était pour avoir une éco-responsabilité plus importante. Aujourd'hui, la planète, malheureusement, est passée sur un second plan, puisque le premier plan...
C'est une nécessité économique, oui, effectivement, vous l'avez dit. Merci beaucoup, Michael Lalande, cofondateur et directeur général d'Idéalis, d'être venu aujourd'hui dans 60 Minutes Business. Allez, tout de suite, on accueille Frédéric Banqui.
BFM Business, 60 Minutes Business, le top 3 du web.
Frédéric, le top 3 du web, les meilleurs articles, les plus lus en tout cas de notre site. Et on commence par quelques heures encore seulement pour bénéficier de la ristourne sur le carburant, Frédéric.
Exactement, la question du pouvoir d'achat qui préoccupe énormément nos lecteurs. On rappelle, la ristourne du gouvernement va prendre fin ce soir. En tout cas, elle va être rabotée. On va passer de 30 à 20 centimes. Celle de Total va passer de 20 à 10 centimes. Ben, résultat, le prix du gazole, par exemple, eh bien, il va dépasser allègrement les 2 euros. Et celui du samplon 95 va les frôler. Alors, on va basculer à partir du 1er janvier à un dispositif plus ciblé. C'est ce que rappelle tous les membres du gouvernement, notamment Gabriel Attal ce dimanche. Alors, ce dispositif ciblé, ce sera quoi ? Si on reprend ce qui avait été prévu l'été dernier, c'est 1,6 milliard d'euros budgétés, 12 millions d'automobilistes concernés. Alors, qui sera concerné ? On verra les revenus, mais ça devrait être théoriquement la classe moyenne des gens domiciliés à plus de 30 km de travail et qui roulent 12 000 km par an. Donc ça, ce serait pour début janvier.
Un cocorico boursier à présent pour le deuxième article le plus lu.
Exactement. Paris dépasse Londres. Cocorico, 2823 milliards de dollars, c'est la capitalisation boursière de la place de Paris, devant Londres, donc 2821 milliards, deux petits milliards d'écart. Mais il faut savoir qu'en 2016, avant le Brexit, c'était 1500 milliards d'écart en faveur de Londres. Donc oui, Paris est en train de supplanter Londres. Alors pourquoi ? D'abord, il y a des raisons conjoncturelles, l'économie française se porte mieux, l'économie britannique est aujourd'hui en récession, pas chez nous. Ensuite, en France, on a les cols, on rappelle. Kering, L'Oréal, Hermès, LVMH, nos GAFAM français qui pèsent à eux 780 milliards de dollars. Les Britanniques n'ont pas des géants comme nous. Et enfin, il y a un effet de change. Là, ce sont un calcul en dollars. Et la livre a beaucoup plus perdu, a beaucoup plus reculé par rapport au dollar que l'euro depuis le début de l'année. Mais quand même, voilà, c'est Paris qui devient la place forte de la bourse en Europe.
Cocorico,
il faut s'en réjouir.
Vous l'avez dit, effectivement. Et puis on termine par Twitter, la gestion approximative d'Elon Musk qui provoque des remous boursiers.
Exactement, oui. Auprès de très grandes entreprises, on sait depuis quelques semaines, Elon Musk tâtonne. On peut avoir un compte certifié en payant 8 dollars par mois. Eh bien, des petits malins s'y sont engouffrés et ont créé des faux comptes d'entreprises. Un faux compte Lockheed Martin, par exemple, a tweeté qu'il allait cesser de vendre des armes à l'Arabie Saoudite, aux États-Unis et à Israël pour des questions de droits de l'homme. Évidemment, c'était un faux compte, mais n'empêche, l'action a vraiment perdu 5% en bourse dans la foulée. Idem pour Eli Lilly, le laboratoire pharmaceutique américain, lui aussi piégé en annonçant que ce faux compte allait, que le groupe allait rendre gratuite l'insuline pour le diabète. Évidemment, ce n'était pas vrai. Le groupe a perdu 6%. Tout ça ne va pas inciter les groupes qui quittent Twitter, qui ne veulent plus faire de publicité, notamment le français Stellantis. Évidemment, avec ce type d'aléas-là, c'est pas sûr qu'ils reviennent de sitôt sur Twitter.
Merci beaucoup Frédéric Bianchi, le top 3 du web. Allez, dans un instant, BFM avec vous, Lorraine est de retour.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collo.
Beaucoup d'indicateurs ce matin. La croissance en zone euro est confirmée à 0,2% au troisième trimestre. En France, l'inflation a bien accéléré à 6,2% sur un an en octobre. Confirmation de l'INSEE ce matin. Autre indicateur, le taux de chômage. Il ressort quasi stable au troisième trimestre à 7,3%. Et puis en Allemagne, le moral des investisseurs se redresse nettement en novembre sur fond d'espoir de voir l'inflation refluer prochainement. Le monde doit éviter une nouvelle guerre mondiale. Déclaration du président indonésien à l'ouverture du G20 ce matin à Bali. Un peu avant le sommet, Emmanuel Macron a rencontré Xi Jinping. Le chef de l'État appelle à la fin de l'escalade dans la guerre en Ukraine et demande à son homologue chinois d'appeler Vladimir Poutine à revenir à la table des négociations. La filière nucléaire va devoir recruter entre 10 000 et 15 000 personnes d'ici 2030, dont 3 000 personnes par an, rien que pour EDF. C'est ce qu'indique l'énergéticien ce matin. EDF qui précise que le planning des travaux sur l'EPR de Flamanville s'est amélioré, mais il y a encore des marges de progression. Iliad continue de gagné de nouveaux abonnés au troisième trimestre, plus 650 000 nouveaux clients en France, en Italie et en Pologne. L'opérateur publie un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 12,5% à un peu plus de 2 milliards d'euros. Le plan de redressement d'Orpea après les scandales et plus de 9 milliards d'euros de dettes, le groupe risque de manquer de liquidités au cours du premier trimestre 2023. Pour se désendetter, la direction envisage de céder certains actifs immobiliers et va aussi réduire ses activités à l'international. Ce matin, le parquet de Nanterre confirme avoir lancé des perquisitions dans les établissements soupçonnés de maltraitance. C'est l'événement du jour, les BFM Awards, 18e édition. Le jury récompense entre autres le manager de l'année ou encore l'entrepreneur de l'année. C'est à suivre en direct ce soir depuis la pyramide du Louvre. Rendez-vous à 19h pour le Before, 20h pour la cérémonie. Et puis pour la première fois, la Bourse de Paris dépasse celle de Londres en matière de capitalisation, conséquence du Brexit. Mais c'est aussi grâce au secteur du luxe, hein, la locomotive du CAC 40 avec LVMH, qui est la plus grosse société cotée européenne depuis un an et demi. Sur les 5 dernières années, le FTSE a fait du surplace. Dans le même temps, le CAC 40 a bondi de 25%. Et justement, un mot des marchés. Le CAC évolue à la mi-journée dans le vert, plus 0,3%, 6629 points, Sandra.
Merci Stéphanie, votre prochain journal à 15h.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
Le retour de Lorraine Goumeau dans BFM avec vous. Bonjour Lorraine.
Bonjour Sandra, bonjour à tous.
On va parler d'initiative et de confiance aujourd'hui.
Oui, c'est le thème. Est-ce vraiment possible de combiner ces deux concepts? C'est la question qu'on va poser à notre expert du jour. Il s'agit de Christian Bogos. Bonjour Christian.
Bonjour Lorraine, bonjour Sandra. Bonjour.
Co-fondateur du cabinet Les Temps Nouveaux. Alors, est-ce qu'il y a un lien de causalité entre initiative et confiance? Comment on les lit? Faites un petit topo philosophique pour démarrer, Christian, s'il vous plaît.
Et en tout cas, c'est un sujet qui est non seulement d'actualité et qui sera toujours d'actualité, surtout quand l'entreprise est en train de se rénover. La confiance est une conséquence. Elle ne s'instaure pas, c'est la conséquence d'un système de management qui dit, eh bien, autour du projet de l'entreprise, je décide de déléguer la responsabilité à ceux qui sont le plus proche des clients, le plus proche du problème, les plus proches des chaînes de production. Donc, en déléguant la responsabilité, je fais confiance, mais c'est autour d'un projet, donc c'est un vrai système de management qui change tout et qui provoque cette confiance.
On va répondre à quelques questions d'auditeurs, mais avant peut-être faisons une distinction. En tout cas, je vais vous poser la question. Est-ce qu'on peut créer un climat de confiance de la même manière dans une PME que dans un grand groupe? Est-ce qu'on parle de deux univers différents ou est-ce que c'est comparable?
Alors, évidemment, c'est deux univers différents parce qu'il y a des procédures, il y a une taille un peu différente. Mais au fond, si la confiance et les relations de confiance sont la conséquence d'un système de management, on peut considérer que la démarche est la même. Peut-être que la rapidité sera plus grande dans une PME, mais la démarche est la même. La démarche est toujours celle-ci. J'ai un projet d'entreprise, j'ai une mission. J'essaie de la diffuser, de l'expliquer, et j'essaie, à tout le monde évidemment, et j'essaie de trouver la place de chacun des collaborateurs au sein de ce projet. Quand on a cette union, voire cette unité, que ce soit PME ou grand groupe, ensuite on peut déléguer de la responsabilité et créer de la confiance.
Alors quand je suis manager, comment je favorise la prise d'initiative dans mes équipes, Christian?
En tout cas, ça fait peur. Ça fait peur de laisser l'initiative parce que souvent, le management est bâti autour du contrôle. On vous dit toujours, hein, exécution, contrôle de l'exécution. Et pourtant, il faut le faire, parce que c'est dans l'initiative qu'on crée de la valeur, de la croissance. Donc c'est d'abord une culture. C'est la culture de l'entreprise. Un manager seul ne peut pas être isolé dans cette démarche. C'est d'abord la culture de l'entreprise. Que dit la culture de l'entreprise? C'est simplement de dire, eh bien, en permettant l'initiative de ceux qui sont en face des clients, je crée beaucoup plus de valeur et je réponds mieux aux attentes. Donc, je fais un peu moins de contrôle. Donc oui, non seulement il faut le faire, mais je dirais qu'il faut le faire à cette condition, mais à une seconde qui est tout aussi importante, c'est le feedback. Globalement, je vous ai laissé l'initiative de prendre un certain nombre de décisions pour satisfaire votre client. Eh bien, il faut qu'il y ait un feedback avec le manager. Il faut qu'on explique ce que ça a donné. Vous savez, le plus important, c'est de savoir qu'on est utile dans une boîte, même si notre utilité, ce sont que des petits riens, que des petites choses qui font avancer les choses. Voilà, ces petites choses qui font avancer les choses, ça crée non seulement la confiance, mais ça favorise l'initiative.
Le plus important, c'est de se sentir utile. Alors, une question très concrète. Beaucoup d'entreprises fonctionnent en mode projet, beaucoup d'équipes fonctionnent avec des horizons assez, assez courts. Comment on fait pour développer un engagement durable de ces équipes dans la confiance et dans un esprit d'initiative quand on enchaîne concrètement les projets?
En tout cas, ce que l'on voit aujourd'hui, quand on regarde la sociologie des entreprises et surtout l'arrivée des nouvelles générations, hein, je vous rappelle qu'aujourd'hui, en moyenne, on a un collaborateur sur deux qui a moins de 30 ans dans les entreprises en France. Donc, on est plutôt génération Y ou Z. C'est l'impact de ma mission sur l'entreprise. C'est ça qui crée l'engagement. Le dévouement aveugle qu'on a connu il y a quelques années, je crois que c'est non seulement terminé, mais c'est en voie de terminaison assez rapide, ce dévouement aveugle. L'entreprise est tout et je me donne corps et âme pour elle. Non, c'est l'impact de ce que je fais. Alors on parle beaucoup du sens, mais là je reviens sur l'impact ici et maintenant. Ce que je fais pour un client, ce que je fais pour mettre en œuvre la stratégie, est-ce que ça se voit ? Est-ce que ça me correspond ? Est-ce que ça m'enrichit ? Et si j'ai tout ça, si j'ai cette boucle vertueuse avec le feedback en plus, là, l'engagement est en train de monter, évidemment.
Est-ce qu'il faut que toutes les prises de décision soient partagées, Christian ?
En tout cas, il faut aller vers ça. Mais maintenant, il faut définir à quoi sert de partager la décision. Et je reviens toujours à mon point de départ. On a un projet, l'entreprise a un projet qu'elle doit mettre en œuvre. Et elle a besoin de tout le monde pour le mettre en œuvre. Si, à un moment donné, dans l'équipe, la cohésion est plus forte, si on partage ensemble les décisions, il faut le faire. Avec toujours cette limite de la confidentialité, c'est un leurre de penser que le dirigeant de l'entreprise va partager toutes les décisions. Il y a des décisions qui sont confidentielles. En revanche, les décisions qui impactent le fonctionnement de l'entreprise, je pense qu'il faut non seulement les expliquer, mais les partager. Ça ne veut pas dire autogestion. Il y a toujours un arbitre à la fin. Mais ça fait partie de l'énergie de la mission, je crois.
Il faut un chef pour cheffer. Alors justement, en transition, on nous pose cette question autour du bien-être au travail. Est-ce qu'on est forcément dans un modèle avec une hiérarchie ? Est-ce que c'est ça l'entreprise de demain ? Toujours de rester dans un cadre hiérarchique ?
Eh bien, moi je dirais, définissons déjà le mot hiérarchie. Aujourd'hui, on voit de la mauvaise utilisation de la hiérarchie. Pas de la remise en cause de la hiérarchie. Je pense que, encore une fois, pour aller vite, pour être agile, pour être souple, pour garder le cap, il faut toujours quelqu'un qui arbitre les décisions. Il peut y avoir plein d'initiatives, il y a un moment où il faut arbitrer pour aller droit vers la stratégie. C'est la bonne hiérarchie. La mauvaise hiérarchie, c'est l'autocratie, c'est le contrôle, c'est l'opacité, etc. Il faut quand même se souvenir d'une chose, on parle beaucoup de liberté, que ce soit dans l'entreprise ou même dans le pays d'ailleurs, on parle beaucoup de liberté et souvent la majorité des gens ont besoin de protection. Protection du contrat, protection de l'équipe, protection en cas de grande inflation, en cas de retournement du marché, etc. Donc la liberté va aussi avec la protection. Et ça c'est ce qu'on appelle aussi l'arbitrage. C'est-à-dire que oui, la hiérarchie mal utilisée, il faut en changer. Bien utilisé, ça favorise la liberté et la protection.
L'ego est-il un atout pour être un bon dirigeant, Christian ? Comment on assouplit son ego de dirigeant ?
Alors justement, là-dessus, il y a eu pas mal d'études super intéressantes qui ont été faites sur la différence entre la façon de recruter un dirigeant et la façon dont il exerce sa fonction. Pour être recruté, alors je parle des critères peut-être encore anciens, mais qui existent encore. Pour être recruté comme étant dirigeant, il faut avoir une super confiance en soi, voire limite arrogant, pour être sûr d'avoir toutes les réponses à tout. Il faut avoir une énergie débordante, il faut avoir plein d'expérience, et c'est le symbole du leadership. J'ai besoin d'un chef. On est embauché avec ces caractéristiques. On applique ces mêmes caractéristiques dans l'équipe, c'est le succès de l'échec total. C'est si j'ai trop confiance, je ne fais pas confiance aux autres. Si je suis arrogant, je n'écoute pas les autres, etc. Donc on voit bien que l'ego est nécessaire quand on veut être recruté et il faut avoir de l'humilité quand on veut réussir avec une équipe. C'est ce paradoxe que l'entreprise doit résoudre, est en train de résoudre aujourd'hui.
quand on est recruté à un poste de direction ou quand on est dirigeant parce qu'on a fondé sa propre entreprise,
oui,
c'est sûr que l'ego, ça sert quand même d'épine dorsale.
Bien sûr.
Positive.
Bien sûr.
C'est pas la disparition de l'ego. Bon, on a essayé de répondre à quelques-unes des questions. On continuera ce sujet sur les prises d'initiative en entreprise. Et ce sujet du feedback qui vous est cher, Christian,
oui,
on verra peut-être.
Le feedback et la récompense.
Récompense. Merci beaucoup Christian Bogos d'être venu nous voir, cofondateur du cabinet Les Temps Nouveaux. Dans un instant, BFM avec vous continue, on recrute bien sûr.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM avec vous, deuxième partie de l'émission. On recrute et nos recruteurs aujourd'hui sont des spécialistes de l'emploi, Lorraine. Oui, c'est un petit peu une mise en abîme du recrutement avec notamment notre premier invité. Il s'agit de Gilles Cavaleri. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Vous êtes le président de Samsic Emploi. Alors on connaît Samsic, grand groupe français, c'est mais vrai. Samsic Emploi, décrivez-nous ce que votre équipe fait précisément.
Alors, c'est une des trois activités du groupe. Aujourd'hui, dans les prestations de services, dans le recrutement et dans l'intérim, c'est à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires, 1500 collaborateurs, la 7e entreprise de travail temporaire en France, celle qui croît le plus vite, une croissance de 20% aujourd'hui par rapport à l'année 2021, qui était déjà en forte croissance. Donc, on est dans une dynamique très, très forte.
Alors, vous venez recruter à la fois pour vous, en tant qu'entreprise et branche de Samsic, mais aussi pour vos clients. Comment vous pouvez nous résumer l'état de vos clients? Comment ça va sur le marché de l'emploi, sur les types de postes que vous recrutez? Comment se porte le marché?
Alors, le marché se porte encore très, très bien, malgré les nuages qui s'amoncellent un petit peu sur l'économie, sur la situation géopolitique. On reste dans une dynamique relativement forte. On se pensait au début de l'été qu'il y aurait une sorte de ralentissement sur cet automne. C'est tout le contraire. On est encore sur une dynamique relativement forte, que ce soit auprès de nos clients. On a à peu près, nous, 10 000 offres d'emploi en permanence. C'est même encore plus qu'il y a quelques mois. Donc, on est dans une dynamique très, très forte, que ce soit dans les activités de transport logistique, dans l'industrie agroalimentaire, encore aussi sur le bâtiment. Donc, on est vraiment aussi dans une dynamique relativement forte. Et nous, pour notre staff personnel, on recrute aujourd'hui plus de 100 personnes.
Oui, et vous recrutez quel type de poste, précisément?
Alors, nous, on a cette ambulance, mais pour nos activités à nous, oui, on est vraiment sur notre siège à Rennes, à Cesson-Sévigné exactement. Sur nos sièges, on est sur des fonctions support, comptable, gestionnaire de paye, formateur, chargé de clientèle. Et puis, sur les activités dans nos agences, puisqu'on a aujourd'hui plus de 300 agences en France, on est sur des responsables d'agences, des attachés commerciaux et des chargés de recrutement, qui est la source importante, puisque c'est le sourcing de nos candidats.
Alors, soyons spécifiques, pour vos agences qui accompagnent les clients dans les territoires, où est-ce que vous avez besoin de gens pour rejoindre vos équipes dans les agences? Très précisément. Vous ne pouvez pas nous lister, mais dites-nous quelques
minutes. Un petit peu partout en France, je vous dirais. Un petit peu partout. Aujourd'hui, on a une très, très forte croissance. On ouvre à peu près 30 agences par an, avec un objectif d'avoir 400 agences d'ici 2024. Donc, on est vraiment dans une perspective. Aujourd'hui, on va recruter beaucoup dans le Nord, dans l'Est, dans le Rhône-Alpes, qui sont nos zones de développement, mais aussi dans la partie Île-de-France, qui est aussi la plus importante en termes de bassin d'emploi.
Vous recrutez en début de carrière aussi?
On recrute en début de carrière. Nos responsables d'agence, par exemple, sont des profils qui sont entre Bac plus 2 et Bac plus 4, et nos attachés co aussi. Mais on est aussi beaucoup assez sur l'apprentissage. Mmh. Aujourd'hui, on a 100 apprentis qui sont dans nos agences, qui sont nos futurs responsables de secteur, nos futurs responsables d'agence, nos futurs attachés commerciaux.
Alors, je veux faire carrière dans le recrutement. Pourquoi est-ce que je vais rejoindre Samsic Emploi?
Parce qu'on est dans une dynamique très, très forte. Aujourd'hui, on est une entreprise française, bretonne, régionale, mais avec dimension internationale. Donc, on a une capacité aujourd'hui de pouvoir bouger soit sur d'autres secteurs d'activité, puisqu'il y a trois aujourd'hui activités dans le groupe, que ce soit l'aéroportuaire, le facility, donc une mobilité interne, mais aussi une mobilité à l'international. Mmh. Et aussi, on a un chemin de carrière qui peut s'effectuer, comme je le disais précédemment, avec des apprentis qui peuvent devenir demain des directeurs régionaux, voire des directeurs généraux dans nos activités de recrutement ou sur le groupe Samsic.
On ne peut pas tout évoquer, mais un mot quand même pour les gens que vous recrutez, pour vos clients. Dans ces activités qui se portent bien, vous dites 8000 offres à pourvoir et à staffer. Voilà,
même plus aujourd'hui, même plus.
Dites-nous, vous avez parlé de la logistique, du transport, quels sont les autres secteurs qui recrutent bien?
L'industrie agroalimentaire, qui recrute aujourd'hui de façon très très forte, vraiment de façon relativement permanente. Mais on reste aussi sur des activités qui, post-Covid, sur le transport notamment, où la logistique reste excessivement élevée, avec des besoins sur les préparateurs de commandes, sur les caristes, mais aussi dans le transport, sur les chauffeurs, chauffeurs-livreurs, chauffeurs PL, SPL, avec une demande relativement importante sur tous nos gros clients.
Ouais, chauffeurs poids lourds et super poids lourds.
Voilà, ouais, ça on en entend souvent parler effectivement dans cette émission. Comment on postule, Lorraine ?
Alors vous avez compris, on vous met Samsic sur le plateau à la fois pour postuler chez Samsic, mais aussi dans les secteurs qu'on vient d'évoquer qui ont besoin de mains et de cerveaux. Tout ça se passe sur le site de Samsic. Je vous l'appelle, c'est samsic-emploi.fr. Vous allez retrouver l'ensemble des postes à pourvoir côté Samsic et puis côté client de Samsic.
Vous restez avec nous, hein, Gilles Cavalleri. Soyez attentifs aussi. On reçoit également Alexis Montardre, Lorraine.
Bonjour Alexis.
Bonjour Lorraine, bonjour Sandra.
Vous venez parler d'un autre territoire. On va continuer à parler recrutement. Et vous, vous arrivez de Roanne, dans le 42. Et vous aussi, vous êtes un acteur du recrutement, un acteur indépendant avec votre équipe basée dans la Loire. Eh bien, vous staffez, vous recrutez pour vos clients. Donnez-nous une idée de qui sont vos clients.
Aujourd'hui, ce sont principalement des TPE et PME, parfois quelques grands groupes, sur des sujets, donc soit sur toutes les étapes du recrutement, soit une étape en particulier. Ça peut être du sourcing ou de la chasse, ou de gérer du coup l'intégralité du recrutement. Mais en général, c'est surtout aujourd'hui des TPE, PME qui ont aujourd'hui de véritables difficultés à recruter et qui se tournent du coup naturellement aujourd'hui vers moi
et
sur ces sujets.
Sur quel poste alors précisément ?
Ah bah aujourd'hui, on a plus de 140 besoins, donc difficile évidemment de les lister. Mais aujourd'hui, on va beaucoup travailler, comme mon confrère vous disait, sur l'ingénierie industrielle, sur les métiers de l'industrie, à l'industrie principalement agroalimentaire, sur les métiers qui sont des métiers de la production, de la maintenance, des opérationnels, et puis après toutes les fonctions qui finalement sont autour de ce qui gravite sur l'industrie. Et puis après, beaucoup dans les métiers de l'IT. Hein, je sais que sur ce plateau, beaucoup d'acteurs viennent également. Et puis, on va recruter aussi sur les fonctions support et la restauration, qui est aussi aujourd'hui un peu le nerf de la guerre, qu'elle soit traditionnelle, rapide ou gastronomique et de collectivité, on recrute partout.
On va zoomer sur votre territoire. Oui. Évidemment, vous ne recrutez pas que ultra localement, mais parlez-nous un peu de ce territoire, des industries qu'il dynamise, et est-ce que l'emploi va bien ? Est-ce qu'on arrive à recruter ? Est-ce que les entreprises s'en sortent quand elles passent par vous, mais aussi quand elles s'y mettent toutes seules ?
Oui, effectivement, donc Roanne est une ville à une heure de Lyon, une heure de Saint-Etienne, donc on a effectivement beaucoup d'industries. Le marché de l'emploi globalement va très très bien, même aujourd'hui même beaucoup plus porteur qu'à l'époque. Et aujourd'hui, on accompagne énormément d'industries, beaucoup agroalimentaires et aussi beaucoup, surtout finalement, tous les autres métiers liés du coup à l'emploi, mais beaucoup de création de postes, hein. Pas nécessairement des remplacements, mais vraiment de la création, parce qu'il y a de la croissance. Les entreprises se portent globalement très très bien et on attire aujourd'hui beaucoup finalement de Lyonnais ou même des gens de l'extérieur qui viennent du coup vers Roanne, notamment parce que l'immobilier est peu cher. Et qu'aujourd'hui, il y a eu l'effet Covid aussi qui est passé par là et qui fait que beaucoup ont envie de venir un peu plus à la campagne, en tout cas dans des villes de taille moyenne, pour profiter aussi d'une qualité de vie meilleure que parfois dans des grandes villes.
Voilà, alors en cette mi-novembre, c'est à peu près 140 postes qui sont à pourvoir. On vous redonne quelques-uns de ces postes. Animateur qualité environnement, des responsables supply chain, des chefs d'équipe en production agroalimentaire, vous avez entendu. Et puis des profils de chef, gérant de collectivité, entreprise et bien sûr toujours des techniciens côté techniciens de maintenance. Ça se passe sur plein de sites, notamment Indeed, Hello Work qui mail nos régions et puis LinkedIn. Et puis, vous voyez, Alexis est un recruteur heureux puisque vous pouvez lui écrire directement à l'adresse qui s'affiche, c'est alexis@leheureuxtalenttoutattaché.fr.
Est-ce qu'il y a possibilité de télétravail ? On n'en a pas parlé aujourd'hui, Alexis.
Chez nos clients, alors, chez moi, oui, évidemment, on est en format hybride. Mais aujourd'hui, chez nos clients, c'est possible en fonction des besoins, évidemment, en fonction des postes. Mais aujourd'hui, on essaye aussi avec les employeurs d'aller gérer une journée, deux journées par semaine de télétravail. Possible.
Gilles, c'est pareil. C'est
oui, c'est pareil. C'est un curseur qui est maintenant un petit peu commun à toutes les entreprises, qui reste relativement limité. Mais on sent quand même que par rapport à l'engouement qu'il y a pu avoir sur le télétravail il y a quelques mois, ça se calme un petit peu dans les entreprises. Il y a un besoin aussi de retourner, de retrouver la cohésion et d'avoir des échanges plus importants au sein de l'entreprise.
Vous avez évoqué des secteurs où il y a du mal à recruter, l'agroalimentaire, le transport. Comment vous sentez justement que les évolutions de l'entreprise dans le secteur des services est perçue dans ces métiers où il n'y a structurellement pas d'avantages matériels comme le télétravail, le remote ou la flexibilité? Comment on gère quand on est recruteur ce boulevard qu'on ne peut pas
la proximité,
résorber, quoi.
La proximité. Je pense qu'aujourd'hui, être très proche des bassins d'emploi sur les structures qui sont généralement placées dans des environnements qui sont bien spécifiques, géographiques, c'est vraiment la proximité, la capacité d'aller chercher les candidats partout où ils se trouvent. Je vous donne juste un exemple. Pour nos clients, nous, on a mis en place un job truck. C'est-à-dire qu'on est en capacité.
Un camion de l'emploi.
Un camion de l'emploi, plusieurs, dans plusieurs régions, où on va vraiment dans les villages, dans les places, on va aller chercher le candidat partout où il se trouve, et on essaye d'aller recruter effectivement sur des bassins d'emploi qui étaient aujourd'hui assez inexplorés. Donc on va vers le candidat. Aujourd'hui, c'est terminé le temps où les candidats venaient vers nous. C'est terminé. Aujourd'hui, on va vers le candidat avec des évolutions novatrices. Et on le fait aussi d'ailleurs sur des réseaux sociaux spécifiques. On a été sur Twitch, on a été sur TikTok. Vous voyez, on essaye d'aller explorer un petit peu tous les environnements nécessaires pour aller vers le candidat.
Alexis, même réponse.
C'est un peu la même approche aujourd'hui. Ouais. On va aller effectivement chasser, on va aller sourcer les profils qui sont sur les plateformes, puisque véritablement les annonces aujourd'hui servent plutôt de vitrine que je vais aller postuler. Ben non, aujourd'hui, il faut vraiment aller chercher, les convaincre, les séduire à travers un projet, à travers un métier qui a du sens, à travers aussi un métier où il y a des possibilités d'évolution. Ça, c'est aussi important. J'attaque agent de production. Demain, je peux être conducteur de ligne, je peux être chef d'équipe, etc., etc. Donc, on joue vraiment là-dessus aujourd'hui. Plus après, évidemment, l'aspect géographique, mobilité, être plus proche, être à 10, 15 minutes, habiter vraiment proche, parce qu'effectivement, l'essence, l'inflation fait que il y a cette difficulté.
Merci messieurs, Alexis Montard d'être venu, Gilles Cavallari également.
Merci.
Demain on parlera de la semaine de 4 jours.
Laurent. Et oui, autre révolution qui touche nos entreprises cette semaine de 4 jours. Vous avez beaucoup de questions, et on aura nos réponses, vos réponses demain.
Cette émission est à retrouver en podcast et en replay. On vous retrouve demain à midi pour 60 minutes business, à midi 30 pour BFM avec vous. Bonne journée.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.